Grain de sel ou... Grain de poivre.
Bonjour Franck Laferrière.
Bonjour Sandrine.
Vous êtes notre chroniqueur aujourd'hui sur Phare FM. Votre chronique s'intitule « Obscurantisme religieux et excès de la révolution sexuelle ».
Oui, tout à fait. Depuis près de 10 siècles, l'homme occidental vit faussement sur un quiproquo à propos du sexe. De cette erreur, entre obscurantisme de certains religieux et excès de la révolution sexuelle quant aux pratiques, l'équilibre est dur à trouver.
Mais alors, quelle est l'origine de ce quiproquo, justement ?
Alors, il s'agit, à mon sens, d'une mauvaise interprétation du 3e chapitre de la Genèse, où Ève, puis Adam, sous l'influence du serpent, mange le fruit défendu. Le serpent y est défini comme « rusé », et l'homme, après avoir consommé le fruit, a connaissance qu'il est nu et se cache. Or, en hébreu, les mots traduits par « rusé » pour le serpent et « nu » pour l'homme sont très proches, à tel point que le mot donnant « rusé » en français peut aussi être traduit par « dénué de scrupules ». Dénué, nu, même en français, il y a proximité. C'est ce qui peut donner à la faute originelle dans certaines traductions un sens tout à fait différent.
Alors, est-ce qu'il faut comprendre que les religions ont basé sur un malentendu ou alors une mauvaise traduction leurs enseignements concernant le sexe, Franck ?
Mais sur un malentendu, oui, on ne sait jamais, ça peut marcher, comme dirait l'autre. En partant des enseignements des moines du XIIe siècle ou de leur détournement, s'est glissée dans la croyance populaire la notion de faute originelle associée au sexe par l'expression « péché de chair ». Comment croire que le Dieu amour de la Bible aurait le sadisme d'interdire le plaisir sexuel à une création qu'il a équipée pour ? Dans la même Bible, du roi Salomon à Paul, les choses ont le mérite d'être claires. Le premier incite son fils à jouir de la vie ou à prendre du plaisir avec la femme qu'il aime. Quant au second, il préconise au couple de ne pas se priver l'un de l'autre, sauf d'un consentement mutuel pour vaquer à la prière. Pour résumer, il n'y a pas que l'amour dans la vie, il y a aussi le sexe, en bonus.
Alors un peu de science maintenant, Franck. Il y a pour vous une grosse distinction à faire à ce niveau-là également.
Oui, absolument. Il y a à faire la distinction entre l'adrénaline et l'ocytocine. Ce sont des hormones. L'ocytocine, également appelée hormone du plaisir ou de l'attachement, se retrouve dans le rapprochement amoureux. On note aussi sa présence lors de l'accouchement et de l'allaitement. C'est une explication physiologique du plaisir sexuel, apothéose de l'amour dans le couple. Ça pimente la vie de couple. L'adrénaline, bien connue des sportifs et amateurs d'émotions fortes, vient se faire passer pour de l'ocytocine dans les rapports sexuels sans amour. L'acte sexuel devient alors une performance sportive et le ressenti est comparable à celui éprouvé par le sprinter qui franchit la ligne le premier ou le rugbyman qui marque un essai. Dans le premier cas, c'est Larissa sur le couscous. Dans le deuxième, c'est Larissa sans le couscous. Et nourrissez-vous uniquement de cette délicieuse sauce pimentée et vous viendrez me décrire l'état de votre métabolisme et de votre appareil digestif.
C'est une histoire de choix, finalement.
Oui, absolument. Mais attention à l'exemple donné aux générations qui viennent. L'éducation est le fait des parents et non de l'institution. Et tant que l'éducation sexuelle des enfants se fera hors du dialogue familial, on risquera de voir de plus en plus l'acte sexuel amoureux dénaturé. C'est déjà le cas avec l'exposition toujours plus précoce des enfants à la pornographie via Internet et aux publicités diffusées à toute heure pour préservatifs qui assurent l'orgasme. La conséquence est que, dans l'ouragan hormonal de la puberté, il risque de prendre pour de l'amour ce qui n'en est que le bourgeon pour passer à l'acte trop tôt et s'en retrouver frustré ou pire encore, blasé.
Merci beaucoup Franck Laferrière.
Je vous en prie.